Vous écoutez France Culture.
Zip, plaf, bonk, zwing, les matins sont aujourd'hui consacrés à la bande dessinée et plus largement même au dessin, tout court, à l'occasion du 42e Festival International de la BD qui s'ouvre aujourd'hui à Angoulême et qui se terminera dimanche. Le 9e art, comme il est convenu d'appeler la bande dessinée, impressionne toujours par sa capacité à se renouveler dans tous les genres qui le composent, mais depuis quelques semaines, il faut bien reconnaître qu'une sorte d'onomatopée semblantait les bulles et phylactères de nos dessinateurs ou autres caricatures. Et cette onomatopée serait peut-être sniff. Après les attentats contre Charlie Hebdo, comment reprendre le crayon quand on est dessinateur? Et puis les conditions de sécurité élevées au Festival d'Angoulême prouvent-elles que le dessin et la bande dessinée sont menacés dans leur essence, c'est-à-dire est-ce qu'on menace ou non leur liberté? Et surtout, est-ce que cela révèle au fond que le dessin a plus de force qu'on pourrait le croire? Et faut-il attribuer au dessin et à la bande dessinée très populaire en France une sorte de succès qui sauve parfois l'édition de ces marasmes? Bref, le dessin, la question peut paraître un peu simple comme ça, mais le dessin est-il plus fort que tout? Et quel poids occupe-t-il aujourd'hui dans notre société? Mais ce, depuis peut-être longtemps, il faudra remonter pour cela dans l'histoire de l'art tout court, revenir, qui sait, à Daumier ou encore aux feuilles libres de la Révolution française. Pour parler de tout cela aujourd'hui, nous sommes en compagnie, ladies first, de Jacqueline Lichtenstein, bonjour.
Bonjour.
Philosophe, historienne de l'art, actuellement professeure d'esthétique et de philosophie de l'art à l'université Paris 4 Sorbonne, grande spécialiste des 17e et 18e siècles, hein, entre autres du dessin, de la sculpture et puis aussi de la figure de l'amateur dans l'histoire de l'art, Jacqueline. Et je crois que vous m'avez dit hier, pourquoi m'invitez-vous? Je ne connais rien à la bande dessinée.
Oui.
Mais c'est bien pour ça.
Oui, mais c'était juste parce que je trouve qu'on demande un peu trop aux philosophes de se prononcer sur des sujets qu'ils ignorent, et voilà.
Mais sur la question du dessin, vous pourrez nous dire évidemment beaucoup de choses. Ben, après tout, vous êtes en compagnie d'un collègue à vous, il est historien de formation, qui s'est un peu philosophe sur les bords. C'est un Normalien qui a bien tourné, puisqu'il est devenu dessinateur de presse et auteur de bande dessinée. C'est Jules. Bonjour Jules.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation bientôt ce matin. Votre dernier ouvrage, de Silex in the City, c'est Vigiprimate.
Bah oui, c'était un petit peu un tome 5 prémonitoire.
C'est parce sur que le terrorisme, entièrement. Tout est sur une sorte de... C'est pas Al-Qaïda, c'est...
Alors, c'est une transposition de notre époque contemporaine en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Donc le principe, c'est à chaque fois d'avoir des espèces d'équivalents pour faire une caricature.
On s'y reconnaît beaucoup, quand même.
Une satire vraiment la plus juste aujourd'hui. Et effectivement, on adopte le plan Vigiprimate parce qu'il y a des menaces d'Al-Quadruman au Maghreb paléolithique sur la vallée. Et en fin de compte, même...
On peut continuer à en rire, donc.
Dans le tome 1 de Silex, il y avait le personnage de Cabu, qui était un homo sapiens, qui avait dessiné 12 caricatures de mammouth sur le mur de sa caverne. Et évidemment, les adorateurs du mammouth n'étaient pas du tout contents. Donc, bien sûr, il y a des façons de parler des sujets avec 1000 angles différents. Et je pense qu'on en reparlera sûrement, mais il y a un truc très... français, justement, dans cet esprit-là, un petit peu de frondeur, de satire, et qui passe très bien à travers le dessin, d'où aussi, je pense, le succès de la bande dessinée, et notamment de la bande dessinée d'humour, qui est peut-être le point de départ, quasiment, de cet art.
Vous avez dessiné tout cela sans savoir, évidemment, quels événements nous occuperaient ces derniers jours. Jules, aujourd'hui, par exemple, s'il fallait continuer, est-ce que vous vous feriez de même, ou est-ce que vous vous auto-censureriez? Comme sans doute va nous le raconter, et comme l'ont fait souvent les dessinateurs, et ce que nous dira Bernard Joubert tout à l'heure à Angoulême.
En tout cas, à travers Silex notamment, et dans mon travail, je m'interdis aucun thème. C'est-à-dire que très souvent, on dit « non, on ne peut pas parler de ça ». Mais alors, évidemment, il y a les histoires de terrorisme, les histoires de religion, mais pas seulement. Ça peut être juste les crimes pédophiles, ou ça peut être la maladie. Et moi, j'ai fait des épisodes sur le cancer, sur les pédophiles, et évidemment, sur les religions, les différentes religions, sur, en gros, avec cette tradition d'humour noir, je dirais grinçant, c'est-à-dire... plus ça fait mal, plus finalement on peut parler des choses et en faire quelque chose d'un petit peu d'incandescent et mettre le doigt vraiment où ça touche les gens. Donc moi je m'interdis rien. Silex, là, je suis en train de travailler sur des épisodes sur le conflit israélo-palestinien, genre de choses à propos desquelles on dit, pour un auteur, n'y touche pas vraiment, ou alors faut marcher sur des œufs, ce truc est explosif, tu vas te faire taper dessus de toute façon. Et au contraire, moi, quand on me dit ça, ça me donne envie de prendre le taureau par les cornes.
Oui, enfin, vous cherchez la M, si j'ose dire. Bon, allez, on va rejoindre Angoulême tout de suite, il nous attend et on le remercie de nous avoir aidé à préparer cette émission. Un très grand merci, c'est presque reconstitution de Ligue dissoute. Jean-Christophe Augier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de l'espace Franquin à Angoulême avec Jean-Marie Porcher. Et puis à côté de vous, Bernard Joubert, écrivain, journaliste, éditeur français, grand spécialiste notamment de la censure et de la bande dessinée. Tenez, puisqu'on essaie toujours de rire un peu ici en attendant la mort, je crois qu'Angoulême, cela dit, aujourd'hui, est placé sous très haute surveillance, une sorte, comme dirait Jules, de super plan Vigiprimate.
Ah ben, on a pu déjà dans le jour d'avant, c'est-à-dire hier, puisque le festival ouvre ce matin, s'en rendre compte. On ne peut plus rentrer dans un bâtiment public, dans une exposition, sans ouvrir son sac, évidemment, passer sous un portique désormais, un détecteur.
Mais que craint-on également?
Bah, que craint-on? On craint ce qu'on craint dans toute la France, voilà. C'est-à-dire que quelqu'un de mal luné ou qui ne comprend pas la force du dessin et son intérêt et sa force de proposition, de débat, de discussion, d'humour, de sourire viennent répondre à cela avec des moyens violents. Vous parliez d'onomatopées, même les onomatopées ont évolué ces derniers temps. Vous parliez de sniff, désormais dans les bandes dessinées on met plus pampan, hein, on met tu, T-U-E, tu. Et voilà un peu la force de la chose. Mais de toute manière, Angoulême résiste. Et quand je dis Angoulême résiste, c'est très impressionnant. La mairie a ressorti les panneaux électoraux qu'on peut voir dans toute la ville et sur chaque panneau électoral, il y a collé comme une affiche, comme de politique, une profession de foi, une des unes de Charlie Hebdo. Juste avant que de vous retrouver dans cette émission avec Bernard Joubert, avec Jean-Marie Porcher, on disait c'est incroyable. Ils ne pourront plus jamais juger quelqu'un qui a mis un sexe sur un petit dessin dans cette ville, parce que des panneaux électoraux, ils en ont même mis devant le palais de justice, où on voit des scènes sexuellement explicites de manière...
Oui, enfin, on voit des bites, entre... quoi, il faut le dire comme l'aurait dit Charlie Hebdo, Jean-Christophe fait ça.
Comment ?
On voit des bites, quoi.
Voilà, bon, oui, mais je sais bien qu'on est sur France Q, mais j'ose pas quand même tout à fait le faire. Effectivement, on voit même des représentants de multiples religions et de la police et de la justice et de la politique dans des positions scabreuses et avec une force, une violence qu'on avait presque oublié à force de s'habituer, de avoir semaine après semaine, c'est une de Charlie Hebdo. Là, toutes étalées en ville, partout, prennent une sacrée force. Il y a également, je le dis tout de suite, une formidable exposition qui a été montée l'arrache en quelques 15 jours à peine, qui se trouve au musée de la bande dessinée et qui revient sur toute l'histoire de Charlie Hebdo depuis même les prémices, depuis Harakiri Hebdo, depuis le début des années 60. Elle est très touchante parce qu'on voit ce qui a été tué le 7 janvier. Ce ne sont pas seulement des hommes qu'on pouvait apprécier, ce ne sont pas seulement une capacité à déranger, c'est toute une histoire qui était portée là. Et puis il y a aussi le festival lui-même qui devient Charlie, puisqu'une grande bâche hier à midi de 10 mètres de haut sur 4 mètres de large a été dévoilée devant la mairie, où il y a tous les personnages de bande dessinée là, les gentils personnages, les Blake et Mortimer, le chat de Gueuluc, Astérix Obélix, enfin je vous passe tout. Et puis cette phrase, rapprochons-nous du dessin pour que le dessin nous rapproche.
Alors bien sûr, Jean-Christophe Augier, j'ai oublié de préciser, et je le redis, et bien sûr, ce festival d'Angoulême, on pourra le suivre quasiment minute par minute avec vous sur France Info, puisque vous nous faites la joie d'animer les chroniques de bande dessinée, bien sûr, sur France Info. À côté de vous, je disais Bernard Joubert. Bonjour Bernard Joubert.
Bonjour.
Écrivain, journaliste, grand spécialiste de la censure et de la bande dessinée. Hier, dans un portrait de Libération, le dessinateur François Bouc s'interrogeait. Le grand danger maintenant, c'est l'autocensure. Que pourrons-nous continuer à dessiner sans risquer de prendre une rafale ? La question n'est pas nouvelle, de la censure et de l'autocensure, mais pensez-vous aujourd'hui, Bernard Joubert, qu'elle se repose d'une manière complexe d'ailleurs à répondre ?
Non, fallait tout de même pas généraliser. Je ne crois pas que les auteurs de bande dessinée soient dans la crainte d'être tués pour ce qu'ils pourraient faire quotidiennement. Mais que l'autocensure soit le problème actuel, oui, c'est pas nouveau, hein, ça date pas de ce mois de janvier. C'est peut-être même le dernier problème de censure concernant la bande dessinée en France, parce que les lois qui historiquement ont beaucoup pesé sur la bande dessinée, comme celle du 16 juillet 1949, sur les publications destinées à la jeunesse. C'est une loi qui existe toujours. Il y a une commission qui est chargée de son application qui existe toujours, mais qui est totalement moribonde. Hein. Il n'y a plus de bande dessinée interdite depuis une vingtaine d'années. Et les autres lois plus récentes, comme l'article 227-23, par exemple, n'a jamais été appliqué à la bande dessinée. Il n'y a jamais eu de condamnation judiciaire. L'article 227-24, ben on le disait tout à l'heure, ça, ce sont les messages pornographiques susceptibles d'être perçus par des mineurs. Alors, il y a eu des fois, à Angoulême même, des expositions dans lesquelles on a retiré des dessins en se disant « Ah oui, mais si des mineurs viennent, il ne faut pas que tel ou tel dessin soit dans l'exposition. » Ou alors on a mis des vigiles à l'entrée des expositions pour filtrer. Je me souviens de cette exposition au musée de la bande dessinée sur le Bitter Comics, la bande dessinée sud-africaine. Il y avait deux vigiles à l'entrée et une interdiction des mineurs parce qu'il y avait deux, trois planches avec des scènes sexuelles. Comme vous le disiez, maintenant qu'on a vu ça devant le palais de justice dans la rue à Angoulême, je ne sais pas ce que deviendra l'article 227-24 concernant la bande dessinée dans l'avenir.
Sans doute rien, Bernard Joubert, parce que la question de la censure c'est déplacé. Ça n'est plus au fond de dessiner des sexes qui choquent les gens aujourd'hui et qui fait qu'on en meurt. C'est de s'attaquer à des figures et à des symboles religieux.
Oui, enfin, dans la bande dessinée, de façon plus générale, on dessine plus souvent des scènes sexuelles que Mahomet. Hein. Ça fait partie des scènes régulières quand il y a des personnages hommes et femmes dans une histoire, par exemple, habituellement dans Boulébile. Bon, le papa et la maman, on les voit tourner la pelouse ou faire la lessive. Mais depuis que la bande dessinée est adulte, on aime bien mettre des scènes d'alcôve. Ça, c'est courant. Et encore récemment, un dessinateur qui travaillait chez Casterman l'année dernière, adapté un roman policier dans une collection policière, et il me disait, chez Casterman, ils veulent me couper les scènes de sexe, qu'est-ce que je dois faire? Alors je lui ai dit, résister, il n'y a aucun risque judiciaire, aucun risque d'interdiction, et finalement son album est paru avec les scènes de sexe, mais on voulait lui enlever trois planches. C'est de l'autocensure, ça, uniquement.
Jacqueline Lichtenstein, alors dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire on n'a pas attendu la période actuelle pour savoir que les dessinateurs trinquaient très souvent, d'ailleurs plus que les autres, quand il s'agit de censure ou de se déclarer choqué par une image, faut-il reparler à nouveau de Daumier, emprisonné 6 mois pour avoir transformé Louis-Philippe en forme de poire.
Oui, ça c'est surtout 19e siècle lié au développement de la presse, hein, et donc au développement de la caricature, mais comme l'a dit des intervenants, c'est vrai que je crois que c'est vous, enfin, il y a une longue tradition de la satire qui a été littéraire et qui ensuite s'est exprimée sous la forme du dessin.
Et qui est très française.
Et qui est assez française, oui, qui est assez française. Alors moi, simplement, ce que je voudrais dire tout de suite qui me frappait, je réfléchissais en venant, c'est tout de même le titre que vous avez donné comme ça à l'émission, La force du dessin. Moi, je pense que ce serait intéressant d'opposer la force du dessin et le pouvoir exorbitant et à mon avis assez catastrophique, notamment en ce moment, des images. Hein. Parce que ce qu'on a quand même vu avec les événements actuels, je veux dire, les terroristes, je ne veux absolument pas leur donner des idées, ne s'attaquent pas à la télévision. Hein. Ils s'attaquent aux dessinateurs.
Hein. Oui, mais justement.
Voilà. Et donc alors, là, je pense qu'il y a une vraie différence. On nous serine avec la responsabilité des dessinateurs, mais qu'en est-il de la responsabilité des images à la télévision, hein? Qu'en est-il de l'irresponsabilité de ce que l'on voit sur Internet, etc. En moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'en fait, ils mettent le doigt sur quelque chose de très important, parce que moi, j'étais effarée. Bon, comme tout le monde, j'ai regardé les images à la télévision. J'étais scotchée, comme on dit ça. Mais j'étais effarée par l'irresponsabilité des auteurs de ces images, comme j'étais effarée de voir ce qu'on nous montrait sur les couvertures de magazines qui héroïsaient complètement les terroristes. Enfin, j'ai le souvenir comme ça d'une couverture de Spiegel avec les deux frères. Enfin, c'était des figures auxquelles on pouvait s'identifier. Alors que, opposé à ça, ce qui est extraordinaire dans le dessin et la bande dessinée, c'est un cas un peu particulier parce qu'il y a un texte qui est lié à cela, mais ce qui est extraordinaire dans le dessin, c'est qu'il y a une élaboration, une réflexion, une intention, une stylisation, quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion, de l'intelligence, et que c'est à ça auquel on s'attaque, et que ça, c'est dans le dessin depuis toujours, c'est même le sens même du mot disegno à l'origine, on peut en reparler, qui est un projet intellectuel. Donc moi, je suis très frappée par...
Et qui est repéré donc en tant que tel.
Mais qui est repéré, même s'il n'est pas consciemment, mais c'est ça le danger du dessin.
D'où le fait qu'il devienne une cible.
Absolument, moi j'étais très très frappée sur cette opposition entre ce pouvoir des images et des nouveaux médias, la télévision liée à ce qui vient de se passer, et le fait que les ennemis, là, ou l'ennemi, c'est le dessin précisément parce que c'est un travail critique,
d'élaboration. Parce que le dessin donc, en soi est aussi l'ennemi au fond des images
des
de la
images,
télévision.
Absolument.
Le dessin
absolument.
N'est pas une image. Vous,
absolument.
On va faire presque,
absolument.
C'est ce que vous diriez. Ouais. Jules, sur ces questions,
oui,
vous qui êtes aussi un peu philosophe,
de toute façon,
avec
le dessin,
la planète des sages.
Il y a cette prise de recul inhérente juste au dessin. C'est déjà une transformation voilà. du réel. C'est déjà un recul. Cette mise à distance-là, elle n'est pas dans les images de télévision qui arrivent toutes crues. Cette crudité-là, cette immédiateté-là est l'ennemi de la réflexion voilà. et l'ennemi du recul. Du coup, en fait, le dessinateur, en soi aussi, il a une singularité. C'est-à-dire qu'il s'empare du réel, il a un point de vue. C'est-à-dire que l'absence, supposée d'ailleurs, parce que c'est toujours faux, une image, il y a toujours un point de vue, mais le réel qui est donné comme ça, qui est livré directement à la télévision, dans les images de direct, ou même dans la photographie, n'a pas, je dirais, la subtilité et, je dirais, le mordant du dessin. Et c'est pour ça, évidemment, que quand il y avait eu des procès, et quand il y a des gens maintenant qui sont menacés, bien sûr, c'est plus volontiers le dessin, parce que, finalement, la réalité n'est jamais plus juste, n'est jamais mieux rendue que lorsqu'elle est recréée. En tout cas, il n'y a pas cette espèce de pseudo... pseudo-effet de réel qu'il peut y avoir dans la télé.
D'où les violences qu'elle peut déclencher. Vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que c'est ça, notamment, qu'ont parfaitement repéré, Bernard Joubert, les censeurs vis-à-vis du dessin, cette élaboration-là ?
Alors, les censures telles qu'on les connaissait, la censure institutionnelle telle qu'on la connaissait, par exemple, à la commission de surveillance, ne s'intéressait pas au dessin satirique. Le dessin satirique, c'était pas ce qu'ils examinaient. Eux, c'était vraiment la bande dessinée. Et je remarque pas que dans la bande dessinée, il y ait de tels problèmes. Enfin, là, actuellement, ce sont des dessinateurs de dessins satiriques qui, avant tout, ont été tués. Mais Cabu, on l'a pas tué pour les aventures du Grand Duduche, vous voyez. D'ailleurs, habituellement, les dessinateurs de Charlie Hebdo, GB disait « je ne fais pas de bande dessinée ». C'est pas vrai, ils faisaient de la bande dessinée. Ouais. Mais les dessinateurs de Charlie Hebdo se considéraient pas vraiment faisant comme le même métier que des auteurs de bande dessinée.
Vous y avez
C'était un petit peu un monde à part. Également, les dessinateurs de dessins humoristiques. Ouais. Hein. On a tendance à les assimiler. C'est du dessin. Ils font pas tout à fait la même chose. Et le contenu de ce qu'ils représentent n'est pas tout à fait la même chose.
Vous y avez travaillé, Jules, à Charlie Hebdo, en hein, deux petits mots. Vous confirmez.
Il y a quelques années, oui et non, parce qu'en fait, c'est une frontière qui existait, qui était assez forte entre le dessin de presse et la bande dessinée, qui a complètement fondu depuis 10-15 ans. Et maintenant, la plupart des auteurs de Charlie Hebdo ont tous fait de la bande dessinée en tant que telle, avec des albums chez des éditeurs de bande dessinée. Donc ça existait au fond chez Rezer, ça existait chez Vuillemin, ça existait déjà, ces auteurs de presse qui faisaient de la BD. Et donc là, finalement, on a fini par s'en rendre compte. Et combien de grands prix d'Angoulême ou de prix des albums d'Angoulême sont des gens qui viennent du dessin de presse.
Oui, Jean-Pierre Bader en 1978, Brice Couturier, ce qui ne nous rajeunit pas, à 8h15, la deuxième partie de ces matins de France Culture, introduite par vous, Brice.
Ben oui, la question que j'aimerais poser à nos invités, Marc, c'est la suivante. Est-ce que certains commentateurs n'ont-ils pas raison d'estimer qu'en assassinant Charlie, les terroristes auraient mis fin à une époque placée sous le signe de la dérision et qui aujourd'hui n'est plus de saison puisque nous sommes entrés dans une époque, paraît-il, beaucoup plus grave.
Et ce sera donc avec vous, Brice, et nos invités, Jean-Christophe Augier, Bernard Joubert, Jacqueline Lichtenstein et Jules.